enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Regardons ensemble dans la parole de Dieu à Genèse, chapitre 39. Genèse 39, nous souhaitons la bienvenue ce matin à vous, mais ainsi qu'à l'auditoire qui vont entendre ce message, qui écoutent ces messages fidèlement, tant par la radio que par le truchement de l'Internet. Plus de 100 000 personnes qui ont téléchargé des messages l'an dernier. On leur souhaite la bienvenue ce matin, la suite de la série « Le rêve de Dieu ». Et je vais débuter cette série de messages ce matin avec une confession de foi que j'aimerais que vous puissiez faire vôtre, qu'on puisse faire nôtre ce matin, dont on peut s'emparer ensemble alors que nous suivons Joseph dans les étapes de sa vie, dans la puissance du rêve de Dieu et comment protéger le rêve de Dieu et comment l'œuvre de Dieu se fait, la préparation pour l'œuvre de Dieu se fait à l'intérieur de chacun d'entre nous. Je regarde avec vous ce matin au psaume 138 qui nous parle du rêve de Dieu et qui dit « L'Éternel est élevé ». Mais il voit toujours celui, l'Éternel est dans le ciel, mais il voit toujours celui qui est abattu. Lorsque je marche dans la détresse, c'est lui qui me garde en vie, c'est lui qui me fait revivre. Combien d'entre vous, c'est bien plus qu'un verset sur une feuille, c'est l'histoire, c'est l'anthème de votre vie à travers votre épreuve, vous pouvez témoigner, c'est lui qui m'a gardé vivant, c'est le Seigneur qui m'a porté, qui m'a gardé vivant, c'est lui qui me fait revivre. Et la confession est ici, l'Éternel accomplira toutes ses destinées pour moi. J'aimerais que vous disiez à voix haute, l'Éternel accomplira toutes ses destinées pour moi. Que ça soit quelque chose qui, le désir de Dieu, c'est de l'écrire sur vos cœurs, que quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce qui vient contre le rêve de Dieu, l'Éternel n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Que vous ayez, le but de cette série, c'est que soit écrit sur votre cœur pendant, pour toute la prochaine année, cette assurance que quel que soit ce qui vient contre moi, l'Éternel accomplira ses destinées en moi. Dieu ne m'abandonnera pas, ne me lâchera pas. Et quel que soit ce qui est venu contrecarrer, essayer d'avorter le rêve de Dieu dans ma vie, l'Éternel accomplira toutes ses destinées pour moi. Et moi, je suis toujours extrêmement touché, extrêmement ému lorsque je pense à tellement d'entre vous. Il y a tellement de gens ici qui poursuivent passionnément le rêve de Dieu, qui poursuivent avec courage, avec foi le rêve de Dieu malgré des épreuves hallucinantes. C'est toujours émouvant pour moi comme pasteur de voir des gens entendre vos témoignages. Je connais plusieurs d'entre vous, vos récits de vie, les épreuves que vous traversez en ce moment. Mais des gens qui, comme c'est pas juste un psaume sur une feuille, ils ont cette conviction. Des mamans monoparentales, des gens qui sont ici dont un conjoint ou une conjointe ne marche pas dans les voies de Dieu et qui est ici semaine après semaine, qui est là, année après année, à vous tenir pour Dieu. Des gens qui traversent des maladies, des gens qui traversent des deuils, des gens qui vivent des épreuves et des problèmes financiers, toutes sortes de situations. Des dépressions, oppressions, crises d'angoisse, des situations qui viennent sur vous, mais vous êtes là ce matin et vous vous accrochez et ça m'émeut énormément. Il y a souvent ce qui va arriver à l'église, c'est qu'il va y avoir quelqu'un qui n'a pas de fanfare, n'a pas d'apparat, ne cherche pas à être vu ou à être connu. Et souvent, les gens qui sont très fidèles à servir leur prochain et à servir dans l'église et qui marchent et qui semblent vraiment marcher avec Dieu, et tout à coup, je vais entendre par quelqu'un d'autre l'hallucinante épreuve que la personne travaille, le cours traverse, l'extraordinaire foi qui les anime, des jeunes qui sont ici, qui vivent des choses horribles dans leur maison, mais qui sont ici à servir Dieu. Et ce matin, je veux célébrer, je veux m'arrêter un instant et remercier le Seigneur pour des centaines d'entre vous qui avez dit « Mes destinées ». Moi, j'ai l'assurance que Dieu est dans le ciel, mais il n'abandonne jamais l'œuvre de ses mains. Et j'ai l'assurance que Dieu va accomplir ses destinées en moi. Est-ce que c'est votre confession de foi ce matin? Est-ce qu'on peut l'applaudir avec confiance? On reçoit beaucoup de courriels ici à l'église, beaucoup de lettres, mais des courriels comme cette dame qui écrit très simplement. Elle est ici ce matin et elle nous a donné la permission de lire cette portion de son courriel très simple. Mais quelle dignité, quel courage, quelle sobriété même dans le propos. Elle parle de choses terribles, mais elle en parle bien simplement. Mais elle parle de comment c'est une nouvelle chrétienne, de comment sa foi en Dieu lui permet de s'accrocher. Elle écrit, « Cher Pasteur Claude, merci à l'Église Nouvelle Vie de prier pour moi depuis le décès de mon mari qui a subi un infarctus à 53 ans. La vie est difficile. Notre situation financière est très dure et j'ai pris un deuxième emploi les vendredis soirs et samedis. Mais avec 4 enfants, ce n'est pas évident. Il y a des matins où j'ai tellement de peine et tellement peur pour l'avenir que je voudrais mourir. Il y a des nuits où j'étouffe mes pleurs dans l'oreiller pour ne pas que les enfants m'entendent. Pourtant, ma foi en Dieu n'a jamais été aussi vraie pour moi. Je ressens la paix de Dieu et dans toutes sortes de choses bien précises, Dieu répond à mes prières. Il me montre qu'il est là pour moi et qu'il m'entend. J'ai toujours eu la foi en Dieu, mais depuis 2 ans avant ce drame, alors que j'avais commencé à venir à l'Église, ma foi est tellement plus forte. Depuis que je fréquente l'Église Nouvelle-Vie et que j'entends les messages, que j'assiste aux réunions pour les femmes, je suis tellement plus forte, plus calme, plus courageuse. C'est bizarre, mais c'est comme si Dieu m'avait conduite à l'Église Nouvelle-Vie avant cette épreuve pour me permettre de découvrir qui il est vraiment. Je réalise que je n'aurais pas passé à travers sans cette nouvelle foi, cette assurance d'un Dieu qui est vivant et qui est présent pour moi. Les messages sur le rêve de Dieu sont pour moi. Je prie avec les enfants tous les jours et j'ai confiance que Dieu a un avenir pour nous et qu'il y a des jours heureux dans notre futur. Je remercie Dieu pour sa paix et sa consolation qui sont si réelles et si quotidiennes pour moi. Et j'aimerais que toute l'Église, on puisse l'appuyer, cette dame, ce matin, en lui disant que Dieu est avec elle. C'est fascinant lorsque vous étudiez les Écritures que partout où il y a, à travers les psaumes, à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, partout où il y a la promesse du rêve de Dieu, il y a presque à chaque fois immanquablement inclus dans les paroles de quel que soit l'auteur, le Saint-Esprit coordonnant toutes ces choses et les faisant coïncider parfaitement et magnifiquement. Chacun d'entre eux qui parle de la perfection et de la puissance du rêve de Dieu parle presque immanquablement de la préparation du rêve de Dieu, qu'il y a quelque chose qui prend place en nous, dans l'accomplissement du rêve de Dieu. Le psalmiste donne 2 portraits, 2 images magnifiques dans le même psaume 138. Je continue le psaume 138 qui dit « Mes destinées s'accompliront en lui, Dieu n'abandonnera pas l'œuvre de ses mains. » Et il continue en disant « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu connais tout de moi. » Tu sais ce qui me fait me lever, tu sais ce qui me fait porter attention, tu sais ce qui me motive. Tu comprends de loin ma pensée. Et tu pénètres toutes mes voies. Le psalmiste dit, Dieu, tu sais tout de moi. Tu sais toutes les influences que j'ai eues. Tu sais mes paradigmes, tu sais mes traumatismes, tu sais mes craintes, tu sais mes peurs. Tu sais ce qui me motive. Tu sais ce qui m'a propulsé, ce qui va me muer, ce qui va me pousser dans la vie. Tu connais tout de moi. Il dit même, avant même que je ne parle, quand la parole n'est même pas encore sur mes lèvres, déjà éternelle, tu la connais entièrement. J'aimerais vous dire que Dieu sait tout de nous. Dieu sait tout de nous-mêmes. Chacun d'entre nous, c'est des mécanismes de défense, bien souvent malheureusement, que nous développons. Mais tout le monde ici a vécu la situation où est-ce que il y a quelque chose qui se passe et je vais dire quelque chose publiquement. Ce qui sort de ma bouche est une chose, mais il y a autre chose dans mon cœur. Vous comprenez? Il y a une situation de conflit puis vous dites quelque chose. Et parfois, lorsque tu es longtemps avec quelqu'un, par exemple, mari et femme qui sont mariés longtemps ensemble, souvent, tu fais simplement te regarder, même pas besoin de parler, je sais ce que tu penses. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'ai un fils, et ma fille aussi, mais mon fils garçon, il a 13 ans, et je le vois venir. Je sais ce qu'il pense avant qu'il le dise. J'ai déjà été un garçon de 13 ans moi-même, il y a très longtemps. Et je le comprends, et Dieu dit, mettre une bonne face, puis tu peux être courageux, puis essayer de... Tu peux même, parfois, dire certaines choses que tout est bien, mais moi, je connais les choses de ton cœur. Même quand tu ne parles pas, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, dit le Seigneur. Je sais toutes tes voix, tout ce qu'il y a en toi, et je veux faire une œuvre profondément en toi qui va te préparer pour le rêve de Dieu. Et l'image qui est utilisée est tellement belle dans ce psaume 138. Il dit, Seigneur, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Le psalmiste dit, Seigneur, cette chose-là est tellement grande, une telle compréhension, une telle révélation d'un Dieu si personnel autour de nous dans l'accomplissement du rêve de Dieu. C'est trop élevé pour que je puisse la saisir. J'ai de la difficulté à le croire, que tu es un Dieu si personnel. Et l'image d'un Dieu qui est là autour, par derrière et par devant, évoque 2 pensées, 2 images magnifiques. Une image dans un contexte de guerre, où l'homme qui était le plus précieux, que ce soit le roi, que ce soit le prince, que ce soit le commandant, était toujours, lorsqu'ils allaient au combat, marchait, et en avant de lui, et en arrière de lui, il y avait les meilleurs, les garnisons, des meilleurs soldats, et ils mettaient une main sur lui, en avant, en arrière. Et lui marchait, littéralement, entouré, et eux étaient prêts à donner leur vie pour eux. C'était une scène saisissante. C'est comme si, en ce moment, j'aurais préparé, je l'ai pas fait, mais c'est comme j'aurais préparé que pendant que j'ai dit ça, il y a toute une gang de soldats qui viennent en avant, ils viennent en arrière, ils mettent leurs mains sur moi, puis eux autres sont prêts à donner leur vie pour me protéger. Mais Dieu dit, c'est moi qui t'entoure. Dans les combats de ta vie, je suis en avant, je suis en arrière, je t'entoure et je te protège dans tout ce que tu vas traverser. Et l'autre image, Tous les parents ont vécu ça. C'est l'image d'un enfant qui apprend à marcher. Vous avez tous vécu la scène, maman est là, et souvent, les papas sont trop orgueilleux, le pauvre enfant, il a fait juste deux pas, puis le papa, il dit, il marche pas, il court, regarde les bains aller, check les bains aller, vous avez vu la scène, puis là, oh, viens-t'en, mon petit homme, viens-t'en, puis le pauvre enfant, puis il se met, et la scène est magnifique, il se met, il fait quelques pas, et puis il y a maman ou papa qui l'appelle, ou maman qui l'appelle, puis il fait quelques pas, puis là, les parents disent, c'est beau, mon homme, tu marches tout seul, mon petit homme, ma fille, tu marches, mais t'as toujours papa qui est autour, puis il est comme ça. Tu marches. C'est beau, ma grande, c'est beau, mon grand. Tu marches seul, mais je suis là pour t'attraper si tu tombes. Dieu dit, c'est beau, mon grand, dans l'accomplissement du rêve de Dieu. Je marche avec toi. Tu marches tout seul, mais t'es pas seul. Je marche avec toi et je permettrai pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et pour chaque épreuve, moi, je vais venir compte, puis mes bras sont en avant et en arrière. Quelqu'un devrait dire amen. C'est fascinant comment le psalmiste admet que dans la préparation pour le rêve de Dieu, il y a une préparation qui est extérieure, mais la plus importante, c'est qu'est-ce qui se passe en dedans. Que pendant qu'on traverse, comme Joseph a déclaré son rêve, le rêve a été prononcé, il a été proclamé, il est vrai, il est réel. Et alors qu'il est proclamé, qu'il est déclaré, ses frères viennent contre lui, il est mis dans un puits, il est envoyé en esclavage. Il est mis dans une maison d'esclavage, mais là, il va commencer à servir et Dieu va le bénir. Il va être tenté. Et alors que héroïquement et courageusement, pour protéger le rêve de Dieu, il dit non à la tentation. Il est non seulement pas récompensé à ce moment-là, mais alors qu'il dit non à la tentation d'une femme qui s'offre à lui, il est accusé injustement, jeté en prison. Il se retrouve encore une fois dans une prison. Et alors qu'il est là, dans cette prison-là, Joseph, la protection, la main de Dieu qui l'entoure. Et à travers tout ça, il y avait une œuvre qui se faisait en lui. Et le psalmiste, c'est le psalmiste David dans le texte qu'on vient de lire. Et ceux qui connaissent le contexte, c'est un moment presque identique dans le pèlerinage de David où il est accusé injustement, où la prophétie a été venue sur lui qui régnerait sur Israël. Et c'est une vraie prophétie, elle a été dite, elle a été annoncée. Mais là, il est dans une période où il est pourchassé injustement, il est accusé injustement. Et des ennemis disent du mal de lui. Et alors qu'il est le même psalmiste qui dit, Seigneur, tes destinées vont s'accomplir. Je crois que toutes mes destinées vont s'accomplir en toi. Tu marches en avant de moi, tu marches en arrière de moi, tu m'entoures de tes bras. Le même psalmiste reconnaît qu'il y a une œuvre à faire en lui pour le préparer. Et il va dire ces mots très honnêtes. Il y avait des choses qui prenaient place autour de lui, mais il dit, l'Éternel accomplira toutes ses destinées pour moi. Mais Éternel, tu pénètres toutes mes voies. Tu as envahi toutes mes voies, puis tu veux me changer. Et le même verset, la suite du psaume 138, il est très honnête. Il ouvre une petite fenêtre et on voit son humanité. On voit l'intensité et l'humanité à vif de son âme. Il dit, « Oh Dieu, si seulement tu pouvais faire mourir le méchant, Éternel, n'ai-je pas le droit de les haïr? » Tout ce qu'il dit ici, il n'était pas chassé, puis c'était pas juste. Les gens étaient méchants envers lui. Puis, des fois, les textes est trop élégants. Lorsqu'il dit, Éternel, si tu pouvais faire mourir le méchant, savez-vous ce qu'il dit en québécois? Il dit, Seigneur, fais-les crever. Seigneur, qui crève. Seigneur, j'haïs. Seigneur, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez son humanité? Seigneur, est-ce que j'ai pas le droit de les haïr? Il y a même un verset qui, certaines traductions, peut-être c'est ça qui est écrit dans votre Bible, certaines traductions lorsqu'il dit « Ma haine et mon dégoût sont totales pour mes ennemis », il y a certaines traductions de l'hébreu qui disent « Seigneur, ma haine est parfaite pour eux. J'ai haï parfaitement. Il n'y a rien d'amour en moi. Ma haine est totale et parfaite envers eux. » Puis là, je vous ai épargné le reste du psaume parce que David, c'était un homme de guerre, hein? Il était très vivide. C'est pour ça qu'il faut toujours vous interprétiez les Écritures. C'est pas tous les versets qu'il faut que tu ailles vivre le lendemain. Il faut que tu comprennes l'état de cœur parce que David, il dit un peu plus tard, Seigneur, que là, il dit ça exactement. C'est un verset de la Bible que je vous cite. Seigneur, que leurs dents s'éclatent sur les rochers. C'était vraiment une belle scène de guerre. Et Dieu regarde à David puis il dit, tu peux pas t'emparer du rêve de Dieu avec ça dans ton cœur. Il y a quelque chose à faire en toi. Une transformation à faire en toi pour l'accomplissement du rêve de Dieu. Mon royaume ne s'accomplit pas avec ces choses. Il y a des choses qui doivent, avec toute cette humanité-là, elle doit être transformée, elle doit être fortifiée, elle doit être changée. Et le psalmiste le reconnaît. Il dit, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. Tout de suite après avoir dit, ma haine pour mes ennemis est parfaite. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi, apprends-moi, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Apprends-moi le chemin, prépare-moi pour le rêve de Dieu en moi. Vous risquez, amen. Cette œuvre en nous, ces deux pensées fondamentales à l'accomplissement de la préparation du rêve de Dieu pour nous, nous pouvons être le produit de notre passé, mais nous n'avons pas à être des prisonniers de notre passé. Nous ne pouvons pas posséder le rêve de Dieu si nous n'avons pas été préparés par le rêve de Dieu. Qu'alors que Joseph avait les fers aux pieds, qu'il y avait des choses extérieures qui se prenaient, qui prenaient place, qui lui arrivaient, qu'il subissait, qu'on lui infligeait, il y avait quelque chose de plus profond qui prenait place. Dieu était en train de couler du fer dans son cœur. Les fers étaient à ses pieds, nous dit le psaume 105, mais le fer entra dans son âme jusqu'au temps où la parole de l'Éternel s'accomplit et la parole de l'Éternel le testait. Il y avait quelque chose qui prenait place en lui. Il devenait un homme de Dieu. Il devenait un homme de foi. Il y avait quelque chose, une foi inébranlable qui prenait place en lui. Cette œuvre que Dieu veut faire. Le psaume 78 pleure. Littéralement, pleure les fils d'Éphraïm qui, le jour du combat, ont tourné le dos, ont abandonné, ont tourné le dos le jour du combat et pleure le fait qu'alors qu'ils ont tourné le dos, leur fils, leur fille, vous lirez le psaume 78, les générations futures ont vu leurs parents tourner le dos le jour du combat et se sont détournés d'Éternel. Le psaume 78 dit, pleure les fils d'Éphraïm qui ont tourné le dos le jour du combat, les générations qui les ont suivis dans ce chemin parce qu'ils n'avaient pas un cœur qui était ferme ou qui était fort. Devant Dieu. Et moi, j'ai dit, Seigneur, fais ton œuvre en moi, comme en Joseph. Je veux être un homme. Vous voulez être un homme, être une femme qui dit, Seigneur, à travers les épreuves, mets une force en moi, fortifie-moi, coule de l'acier dans mon âme. Par la grâce de Dieu, je ne serai pas un fils d'Éphraïm. Je vais me tenir ferme au jour du combat avec de l'acier spirituel dans mon âme. Et mon fils et ma fille vont voir un homme, un papa, une maman, les gens autour de moi qui, au jour du combat, ont trouvé Dieu fidèle et n'ont jamais abandonné. Vous devriez risquer en même. Une génération qui a de l'acier dans son âme. Lorsque je vais à New York, souvent, les témoignages qui sont là, qui sont tellement touchants. La chorale de New York, récemment, au mois de novembre ou décembre, que je suis allé, une femme qui a chanté, elle s'appelle Darlene, et en 2000, elle avait été diagnostiquée. C'est la directe. Elle chante dans la chorale, mais elle a un ministère où elle dirige des réunions de prière pour soutenir les gens de la chorale. Dans leurs 4 chorales, ils ont plus de 500 personnes qui participent aux chorales. Puis elle coordonne toute la vie de prière et de soutien pour tous ces gens-là dans leur vie personnelle. Et elle-même, en 2000, je me souviens à l'époque parce que j'y allais déjà, j'allais prêcher là-bas à l'époque aussi, d'avoir entendu ce témoignage, j'avais partagé une portion aussi. En 2000, elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Et alors qu'elle a commencé la chimiothérapie, perdu ses cheveux, très malade, les effets secondaires. Et finalement, ça l'a conduit à une opération, une chirurgie, une ablation d'un sein. Et alors qu'elle était en convalescence, son mari l'a quittée. Son mari est parti, il a laissé 3 enfants alors qu'elle se relève de cette opération-là, avec tout ce que ça implique. Et de voir à l'époque comment la grâce de Dieu soutenait cette femme-là, de voir sa force, de voir son courage. Elle a été traversée le traitement, elle a été 2 ans sans cancer. En 2003, il y a eu une récidive, d'autres traitements, une autre opération. Mais maintenant, de 2003 à 2006, elle est bien, elle est en santé. Et au mois de novembre 2006, elle a raconté ce témoignage-là avant de chanter un chant de la chorale. Puis c'était extrêmement touchant parce qu'elle disait aussi, le pasteur me dit, écoute bien ce qu'elle va dire, regarde bien ce qui vient de lui arriver. Au début du mois de décembre, il y a eu un incendie dans son bloc appartement et la place a flambé. Elle n'avait pas d'assurance, elle n'a rien, puis elle a tout perdu. Perdu tous ses avoirs, perdu toutes ses possessions et l'Église était pour l'aider et tout ça. Mais elle était là et c'était pas vaniteux, c'était pas arrogant, c'était pas du mysticisme bizarre, mais il y avait une force tranquille sur elle, puis elle a raconté comment en 2000, vous savez, en 2000, il y a eu le cancer, il y a eu la, me retrouver seule avec mes enfants, mais Dieu était tellement bon et Dieu était tellement fidèle, puis il m'a gardé. Puis en 2003, il y a eu l'attaque encore, mais Dieu m'en a sorti. Ça fait 3 ans maintenant que je suis en santé. Puis maintenant, il vient d'arriver cet incendie-là. Puis elle ne l'a pas dit avec arrogance, mais avec quelque chose de tellement bénissant. Elle a dit, est-ce que vous pensez que maintenant, cette affaire-là va me voler mon chant? Do you think now this is going to steal my song? Est-ce que vous pensez non que cet incendie-là va me voler mon chant parce qu'il m'a chanté? Il n'y a rien, un chant qui disait, Seigneur, rien ne va me voler mon chant, rien ne va me voler ma louange. Je regardais cette femme-là, c'est moi qui étais supposé, c'est moi qui prêchais le soir-là, puis j'écoutais cette femme-là, puis il y avait quelque chose en moi qui disait, Seigneur, mets ce genre d'acier-là dans mon cœur. Je me flagellais pendant une minute. Malheur à toi qui se plaint pour rien. Malheur à toi qui chiale pour rien. Bou, wou, wou. Regarde cette dame-là. Seigneur, mets un acier dans mon âme et rien ne va me voler mon chant. Quelqu'un devrait dire amen. Alors j'accepte et j'entre avec, va entrer avec moi dans la préparation du rêve de Dieu. Et je prépare le rêve de Dieu lorsque je poursuis passionnément la promesse de Dieu malgré la jalousie, le silence du ciel, les injustices. Lorsque je me préoccupe des autres et de leurs rêves et je participe à leur accomplissement. Et ce matin, dans notre prochain message, je prépare le rêve de Dieu lorsque je persévère fidèlement avec Dieu dans ce qui me semble petit, pitoyable, futile et tellement en dessous de mon appel. Regardez avec moi à Genèse, ça va apparaître à l'écran si vous n'avez pas votre Bible. Genèse chapitre 39. Et après que la femme l'a accusé injustement, au verset 20, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. C'est important. À l'endroit même où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et Joseph resta là, dans la prison. L'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Et le verset 23, le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel lui donnait du succès dans tout ce qu'il entreprenait dans la prison. Regardez ici un instant. Alors que Joseph se retrouve injustement dans la prison, après avoir résisté à la tentation et avoir été s'être tenu pour Dieu, il se retrouve dans cette position et son humanité est tellement évidente. Je remercie le Seigneur pour la transparence des Écritures. La Bible nous dit que Joseph a eu un choix à faire et dans la prison, alors qu'il se retrouve là encore étourdi, il s'est mis à servir Dieu. Il s'est mis à faire ce qu'on lui demandait de faire, puis il s'est mis à servir dans la prison. Il est devenu en charge de la prison. On ne sait pas ce que ça peut être. C'était-tu des tâches physiques, c'était-tu des tâches manuelles, d'organisation. Il s'est mis à s'occuper des autres. Il y a quelqu'un, pourquoi as-tu l'air si triste? Il s'est mis à se préoccuper des autres dans la prison. Et Dieu lui a donné la grâce, puis il s'est mis à prospérer, à progresser, à avoir une promotion dans la prison. Mais vous avez besoin de comprendre. Ne vous trompez pas, soyez pas trompés. À n'importe quel moment, il faut vous compreniez, pendant tout le temps que Joseph est là, il déteste le fait d'être dans prison. Est-ce que vous comprenez que Joseph n'a pas grandi en se disant, un jour, je serai en charge dans prison? Est-ce que vous comprenez que Joseph ne disait pas, ouh, ça s'en vient bien mes affaires, je t'ai dit, wow, paf, 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 je monte dans prison. Comprenez-vous que pendant tout le temps qu'il était là, il y avait à tous les jours, chaque fil de son être disait « This is beneath me! » Ça, c'est en dessous de moi, c'est tellement pas le rêve de Dieu. Qu'est-ce que je fais ici? C'est pas moi ça! Que vous comprenez que Joseph détestait être là, croyait pas, et pendant les 2 années où il était là, et c'est pas moi qui mets des paroles dans sa bouche. C'est les Écritures, on présume pas. La Bible nous dit que lorsque 2 hommes entrent, puis ils s'occupent d'eux, puis ils se préoccupent d'eux, on l'a vu la semaine dernière, et quand ils se préparent à sortir, il en prend un par le bras, puis il dit, souviens-toi de moi, là, quand tu seras heureux, souviens-toi de moi, parle en ma faveur à Pharaon, fais-moi sortir d'ici, j'ai rien fait pour être ici. C'est l'émotion de beaucoup de personnes, plusieurs personnes, à différents moments dans nos vies, on a un sentiment, je veux m'en aller d'ici. Faites-moi sortir d'ici. Faites-moi sortir de cette situation. Je ne veux plus être là-dedans. Je ne veux plus vivre ça. Sortez-moi d'ici. Je ne mérite pas d'être ici. Il y a quelqu'un qui dit, sors-moi de ce mariage. Sors-moi de cette situation. Sors-moi de cette situation financière. Sors-moi de cette situation dans le ministère. Sors-moi. Je ne veux plus être ici. C'est une des grandes tentations. Chacun d'entre nous, il va arriver des moments où ce qui est notre quotidien, ce qui est notre vie, est tellement en dessous de ce qu'on pensait être le rêve de Dieu pour nous, que des tentations folles de juste fuir, tout balancer, tout faire sauter, certaines des choses les plus dévastatrices que des chrétiens font, sont dans des moments où je veux m'en aller d'ici, je veux sortir de cette situation-là, puis se mettre à tout balancer. Joseph est dans cette situation, je voudrais sortir d'ici. J'ai rien fait pour être ici. Mais alors qu'il fait fidèlement, qu'il se donne fidèlement à des choses qui sont tellement, tellement en dessous, en dessous de son appel, Dieu est en train de le préparer. Dieu est en train de le rapprocher de son rêve. Dieu est en train de faire son œuvre en lui. Vous comprenez que le rêve de Dieu pour Joseph, c'est qu'il était pour se retrouver dans le palais. Il était pour devenir dans le palais le bras droit de Pharaon et pour administrer la plus grande banque alimentaire de l'histoire et sauver de la famine des centaines de milliers de personnes. Et alors que lui se retrouve dans cette prison-là, il ne voit pas, il ne comprend pas, il ne voit rien d'autre. Mais Dieu est en train de le préparer. Lorsque vous lisez les simples mots, il a été mis à l'endroit où les prisonniers du roi étaient placés. Dieu est en train d'orchestrer toutes choses. Le problème de Joseph, lorsqu'on lit le verset 40, on le retrouve en prison. Puis lorsqu'on le chapitre 40, puis lorsqu'on lit le chapitre 41, on le retrouve dans l'accomplissement de son rêve. Le problème de Joseph, c'est qu'il n'avait pas lu le chapitre 41. Combien d'entre vous ici, vous êtes dans le chapitre 40 de votre vie en ce moment? Moi, je suis en prison là en ce moment, je suis dans le chapitre 40. Je ne le vois pas, le chapitre 41. Je voudrais tout balancer, je voudrais tout lâcher. Je veux me tenir à côté de vous et dire, lâche pas, donne-toi fidèlement à ce qui semble petit, ce qui semble en tout de toi, en dessous de toi. Parce que le petit, la fidélité dans le petit prépare la faveur pour la puissance du rêve de Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. C'est un secret. C'est un secret du royaume. Pourquoi être fidèle dans ce qui est petit? C'est un secret du royaume. L'engagement, lorsqu'il n'y a pas d'émotion, produit l'excellence. Il y a plein de choses qui vont produire des choses merveilleuses à long terme, qui nécessitent une série de choses qui, à court terme, ne sont pas très émotives, pas très excitantes, pas très motivantes. C'est une maman qui s'occupe de ses enfants, qui répète et qui refait, et qui refait, et qui refait. C'est quelqu'un à son travail qui choisit d'être honnête, qui choisit d'être travaillant, qui choisit d'être ponctuel, qui choisit d'être là. C'est un jeune aux études qui choisit de prendre des cours, que ce soit au cégep, dans toutes sortes d'affaires que je ne sais même pas si ça va me servir un jour, mais j'ai un but, je m'en vais quelque part. Les grands rêves s'accomplissent alors que des personnes dans des choses très, 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 qui leur semblent petites et bien en dessous du rêve, sont fidèles. Et avec chaque moment de fidélité dans ce qui est petit, Dieu est en train de préparer le rêve de Dieu. La responsabilité. Pourquoi être fidèle dans ce qui est petit? La responsabilité lorsqu'il n'y a pas de récompense, c'est ça qui produit la richesse. C'est des gens qui, alors que j'ai pas, je ne semble pas avoir rien, que ça ne me donne rien de le faire en ce moment, ça ne semble pas rien produire en ce moment, mais je le fais parce que j'ai pris responsabilité, parce que je suis responsable devant Dieu. Dieu est en train de préparer une richesse spirituelle pour toi. La fidélité lorsqu'il n'y a pas de félicitations produit la foi, la vraie flamme, lorsque personne n'applaudit, lorsque personne ne te tape dans le dos. Aider lorsqu'il n'y a pas d'applaudissements, c'est ça qui produit les grands accomplissements. Servir, il n'y a pas personne dit amen, mais je vais continuer tout seul un petit bout. Servir lorsqu'il n'y a pas de spectateur produit le surnaturel. Personne ne le voit, personne ne le sait, personne n'apprécie, personne ne comprend ce que. Mais je le fais, je sers Dieu, je le fais. C'est ça qui va produire le surnaturel. S'accrocher lorsqu'il n'y a pas d'avancement produit la vraie authenticité. Persévérer lorsqu'il n'y a pas de promotion produit une nouvelle personnalité. Préparer le rêve de Dieu dans ce qui semble petit produit la plénitude de sa puissance. Parce que l'apôtre Paul est en train de former le jeune Timothée pour s'emparer du rêve de Dieu et pour aider d'autres personnes à s'emparer du rêve de Dieu. Il lui fait ce contraste, le même principe. L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, on va avoir des moments. Il va avoir des moments où on va souffrir, des moments où on va être dans des prisons. Est-ce que vous comprenez que l'apôtre Paul n'était pas étranger à être mis derrière les barreaux de la petitesse alors que j'avais un grand rêve? L'apôtre Paul, la prophétie était vraie, elle était réelle. La prophétie avait été donnée, puis il l'a entendue. Dieu avait dit, voici, cet homme sera un instrument pour moi. Il portera la parole devant les rois. Il ira dans les nations. Mais là, il est en prison, il est emprisonné derrière les barreaux de la petitesse. Là où il est, il sert Dieu. Il dit à Timothée, lorsque tu penses que tu perds ton temps, lorsque tu penses que ça ne donne rien, lorsque tu penses que tu es oublié, derrière les barreaux de la petitesse, c'est là que les grands rêves se forgent et se développent et se préparent. Il dit, Timothée, c'est pour cette cause que j'endure certaines souffrances. J'en ai pas honte. Je sais en qui j'ai cru. J'ai la conviction absolue qu'il a la puissance pour garder mon dépôt pour le jour de l'accomplissement. Et là, il dit, Timothée, retiens. Il dit littéralement, sois fidèle dans les petites choses alors que tu es dans le lieu de la préparation. Retiens fermement. Accroche-toi. Combat. Garde le dépôt. Fortifie-toi. Et là, il fait un contraste. Il va nommer des personnes qui, eux, dans les moments de préparation ou de feu ou de puits, littéralement, de moments de prison, au fond du puits, ont juste lâché, ont juste abandonné, ont juste laissé aller, n'ont pas voulu continuer. Il dit, retiens fermement, accroche-toi, combat, garde le dépôt, fortifie-toi, car tu sais que tous ceux qui sont en Asie ont abandonné, entre autres, Phigèle et Hermogène. Et ces deux personnages-là, c'est la seule fois qu'ils sont nommés dans le Nouveau Testament. Ils ont perdu, ils ont avorté. Il y avait toute une histoire. Il y avait un chapitre, il y avait des chapitres que Dieu voulait écrire à propos d'eux, leur vie, leur rêve de Dieu pour eux, qu'ils ont avorté, qu'ils ont effacé, qu'ils ont jeté au panier en abandonnant. L'apôtre Paul dit, Timothée, il faut que tu acceptes la préparation de Dieu dans les petites choses. Puis là, si vous ne saisissez pas bien, Il semble aller vers un autre sujet, mais il ne va pas vers un autre sujet. Il donne trois exemples. Il lui parle de s'accrocher dans le lieu de préparation. Puis après ça, il lui parle d'un athlète, il lui parle d'un soldat, il lui parle d'un laboureur. Souffre avec moi comme un soldat. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Comprends ce que je te dis. Car le Seigneur doit te donner la compréhension, l'intelligence, la révélation dans ces choses. Il lui dit, Timothée, il faut que tu acceptes la préparation de Dieu. Puis lui, il parle de trois sphères de vie. Je ne développerai pas ici ce matin. Il parle de trois sphères de vie où l'accomplissement est directement relié à l'acceptation de la préparation. Tous les films de guerre et de soldats que vous avez vus, le bootcamp et tout le reste, tout le monde comprend très bien que pour qu'un soldat puisse survivre sur le champ de bataille, il faut qu'il traverse sa préparation. Il faut qu'il fasse des milliers de fois des choses qui vont lui sauver la vie s'il apprend à le faire plus tard. Puis tout le monde comprend qu'un laboureur, que toutes les cycles de la vie, c'est quelqu'un qui travaille la terre et qui sème et qui ne voit pas de résultat en ce moment à court terme, mais il sait qu'une récolte s'en vient. Puis il dit, un athlète ne peut pas, pour sa médaille à lui, pour son rêve à lui, pour son couronnement à lui, un athlète ne pourra jamais être couronné, quels que soient ses talents, ne pourra jamais être couronné s'il ne s'est pas préparé. On devrait se réjouir aujourd'hui, on devrait être fiers. Tout le Québec, hier, aux nouvelles, les informations, c'est ce jeune homme-là, Éric Gay, qui est un skieur. Éric Gay a inscrit hier, il a gagné une médaille d'or. Il est devenu champion du monde, il est un champion du monde de ski. Parmi l'élite mondiale, Éric Gay inscrit hier son nom en lettres d'or dans le grand livre du sport du Québec. L'athlète de Mont-Tremblant, âgé de 25 ans, est devenu le premier skieur masculin du Québec à rafler l'or en Coupe du monde alpine. Je vis des instants absolument fantastiques qui tiennent même du surréel, et dit Éric. Depuis l'âge de 15 ans que je travaille pour remporter une médaille d'or, depuis l'âge de 15 ans. Guy a réussi l'exploit à son 7e podium et lors de sa 77e course. Tout le monde comprend que pour son or à lui, pour son rêve à lui, son accomplissement hier, là, ils ont dit qu'il y avait 40 000 personnes sur place et des millions de personnes à travers le monde qui regardaient la course, surtout en Europe. Puis hier, lorsqu'il s'est tenu sur le podium avec sa médaille d'or dans les mains, il n'y a pas de doute dans l'esprit de qui que ce soit que s'il est là, c'est parce qu'il s'est préparé. C'est parce qu'il s'est préparé pour être là. Dans une interview, il a dit, bien, de l'âge de 15 ans à 25 ans, c'est 6 heures d'entraînement par jour, 6 jours par semaine. C'est toutes les choses que je me suis privé. C'est tout ce que les autres ont vécu que moi, je n'ai pas vécu. C'est tout ce que les autres amis vivaient que moi, je ne vivais pas. C'est toutes les autres affaires. Mais moi, j'avais cet objectif-là. Puis on parle d'une médaille terrestre. C'est exactement ça que l'apôtre Paul dit. Il dit que si quelqu'un veut être un athlète, il veut être couronné, il faut qu'il accepte la préparation. Jusqu'à hier, savez-vous ce que les gens connaissaient le plus Éric Gay, ce qui était connu de lui, ce qui était l'appellation un peu sur lui? Hier, là, maintenant, il est champion du monde, médaille d'or. Mais Éric Gay, ce qu'on disait le plus souvent de lui, c'était le champion de toute catégorie. C'était le roi de la 4e place. Crève-cœur. Dans le ski, les Olympiques, la médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, 1, 2, 3. Et lui a battu un record de plus de fois où il a juste fini 4e. Juste en arrière. Des fois, il était 1/100 de seconde en arrière du 3e. Mais on dit pas son nom, lui, il est 4e. Also ran. 4e. Lui était là. 4e. Des centaines de fois. Puis l'autre chose, c'est qu'il était connu pour énormément de blessures. Il y a eu toutes sortes de blessures. Il y a eu des blessures où on disait sa carrière est finie. Toutes les fois où il a regardé les autres sur le podium et où il était à 1/100. Toutes les fois où il s'est dit, qu'est-ce que je fais ici, moi, à l'autre bout du monde, tout seul. Toutes ces fois-là. Peut-être que vous vous sentez comme ça ici ce matin. Moi, je suis une 4e place. Je suis toujours proche, mais j'accomplis pas le rêve de Dieu. Dieu dit, l'athlète ne sera pas couronné s'il n'apprend pas à accepter la préparation de Dieu. Puis lorsque tu penses que tu es oublié et qu'il ne se passe rien, Dieu est en train de te préparer pour ta médaille d'or à toi, la médaille d'or du rêve de Dieu dans chacune de vos vies. Lorsque tu te sens que je suis encore revenu à la même place, il me semble que je n'ai pas progressé. Cette semaine, en étudiant, j'ai découvert un mot hébreu que je ne connaissais pas avant. Toutes les fois que j'ai lu l'histoire de Joseph. Et en l'étudiant, après ça, je suis allé vérifier. Trois sources différentes confirment ceci, puis j'étais fasciné. Joseph avait un rêve, il a été mis dans un puits. Il a été amené en esclavage. Il a été fidèle, il a résisté à la tentation, puis on le remet en prison. Nous, on lit en français, il a été mis dans la cour de la prison du roi. Le mot hébreu « soar », littéralement, l'expression est interchangeable, ça veut dire littéralement, le mot était échangeable. Le mot « soir » veut dire « rond », mais veut dire littéralement « le puits ». Termine dans un puits. La prison est en rond, est en forme de puits. Puis c'était comme une tour et tu étais dedans. Et là, il y a des commentateurs qui disent que même à l'époque, ça faisait partie du langage. S'il y en a d'entre vous, puis, merci Seigneur, vous êtes sortis. Puis, s'il y en a d'entre vous qui avez déjà connu le monde des pénitenciers, les gars, ils parlent comme ça. Là. Moi, je suis allé au Penn, moi, je suis allé à Macasa, moi, je suis allé à. Dans ce temps-là, il disait, il a pogné 5 ans dans le puits. À prison, dans le puits. Est-ce que vous comprenez que lorsqu'ils ont jeté Joseph dans le puits, dans la prison, dans le puits, pour lui, il se retrouvait exactement à la même place où il était avant. Hey, j'étais là dans le puits, moi. J'étais dans le puits, mes frères m'ont jeté dans le puits. Mes frères m'ont jeté dans le puits, puis tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai été fidèle à Dieu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait confiance à Dieu, puis je pensais que j'avançais, je pensais que je progressais, puis je me retrouve encore dans le puits. Est-ce que vous me suivez? Le sentiment de « est-ce que j'avance vraiment? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que je me retrouve encore à la même place que je pensais que je voudrais jamais? Je pensais jamais que je retournais ici. » Et alors, si vous pouvez saisir ceci, j'arrive à la fin du message. Alors que Joseph se pense absolument, il est dans le puits, il se pense à un endroit où il est retourné exactement où il était avant, où il n'y a rien qui a progressé, il n'y a rien qui a changé. Il était aussi à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Alors qu'il est là et qu'il sert fidèlement, en train de servir fidèlement dans la prison, dans le puits, à la même place qu'il était avant. Lui, il pense que c'est fini. 2 ans de temps qu'il était là dans ce trou-là. Mais alors qu'il est en train de le faire, Dieu fait son œuvre. Dieu prépare, est en train de préparer les choses pour Joseph, en train de faire son œuvre en lui. Il est là fidèlement. Peut-être que je vais mourir ici, dans le puits. Puis une minute avant, il pense qu'il est fini, qu'il va mourir ici dans sa prison. Mais Dieu est en train d'orchestrer les choses. Parce qu'il est à l'endroit où les prisonniers du roi viennent. On va lire dans les prochains chapitres, mais je termine avec ceci, avec vous ce matin, avec cette juste la narration de ce qui est arrivé. Les deux hommes qui l'avaient aidé pendant la prison ont sorti. Il y en a un qui a survécu puis se retrouve à la cour du roi. Joseph, lui, est en prison. Il est dans le puits. Il pense qu'il ne se passe rien. Il pense qu'il est là pour le reste de sa vie, mais il sert fidèlement. Il fait confiance à Dieu. Et alors qu'un est retourné dans le palais du roi, il est avec Pharaon, et puis il est échancier du roi, et puis il est en train de vivre avec le roi Pharaon. Pharaon dit un jour, j'ai un rêve, il faut que quelqu'un interprète mon rêve. Et puis il parle à ses experts, et tout le haut gratin de l'époque n'est pas capable d'interpréter le rêve. Puis il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici? Puis Pharaon rigolait pas. Si vous lisez le chapitre, il y a des gars qui se faisaient couper la tête, des choses comme ça. Y a-t-il quelqu'un ici qui va? Y a-t-il quelqu'un ici qui peut interpréter mon rêve? Et les chansons du roi est là, lui. Puis écoute, il regarde toute la scène. Et c'est le même gars que Joseph, il avait serré le bras. Puis il avait dit, hey, oublie-moi pas, là. Oublie-moi pas, mais que tu retournes au palais. J'ai rien fait pour être ici. Mais il l'avait oublié complètement. Et là, il est là tout à coup. Et puis, ça parle, et Pharaon parle de rêve, de rêve. D'un coup, il fait, oh, hey, minute. J'en connais un gars, moi, les rêves, là. J'en connais un temps, j'étais en prison, il avait interprété mon rêve. C'est ça qui a fait que j'en connais un, moi. Pharaon, envoyez-les chercher tout de suite sur le champ. Comprenez bien ceci. Joseph est dans le trou. Il est dans le puits. Il pense que c'est fini, mais il sert fidèlement. Il se préoccupe des autres. Il sert fidèlement. Et alors qu'il est en train de le faire, la porte s'ouvre. Joseph! Peut-être qu'il pense qu'il va mourir. Peut-être qu'il pense que c'est fini. À cet instant-là, il pense qu'il va y être pour toujours. Une minute avant, il pensait que c'était la fin pour lui. Mais en fait, il était à une minute d'une accélération pour l'accomplissement de son rêve. Joseph, oui, viens avec moi, le Pharaon t'appelle. Le Pharaon, le monte dans le, il est monté dans le palais, il est tout étourdi, il arrive là-bas. J'ai un rêve, on me dit que tu interprétais les rêves. Quel est ton rêve? Dieu peut-être peut m'aider. Il lui dit son rêve. Il interprète le rêve. Et d'une manière tellement surnaturelle, tellement prophétique, tellement extraordinaire que Pharaon dit, ça me prend un homme comme toi. Tu as été envoyé à moi pour un moment comme celui-ci. Et Pharaon, pendant que les musiciens s'approchent, j'arrive à la fin du message. Ces paroles plurent à Pharaon et tous ses serviteurs. Et Pharaon dit aux serviteurs, trouverons-nous un homme comme lui? Il n'y en a pas un autre qui a l'Esprit de Dieu en lui. Et Pharaon dit, puisque Dieu t'a fait connaître ces choses, il n'y a personne qui soit comme toi. Je t'établis sur ma maison. Sur tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il prend l'anneau du roi qui représente toute son autorité, toutes ses armées, toutes ses ressources, tous ses trésors. Puis il dit, à partir de maintenant, ça c'est à toi. Mets ça à ton doigt, partout. Une heure avant, il pensait, une heure avant, Joseph pensait qu'il était dans le puits, dans le trou, oublié à jamais. Mais il était en train d'être préparé pour le rêve de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Dieu lui met une autorité qu'il aurait trouvée impensable. Et c'est tellement beau, c'est tellement tendre, c'est tellement magnifique. Parce que le texte nous dit que Pharaon a aussi enlevé son le revêtu d'un habit de fin lin. Il a mis un collier à son cou. Est-ce que vous vous souvenez que ses frères lui avaient arraché son manteau? Ses frères lui avaient arraché le manteau que son père lui avait donné. Mais maintenant, le roi lui donne un nouveau manteau. Le manteau du roi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont ici, vous pensez que vous avez perdu quelque chose. Quelque chose qui m'a été arraché, quelque chose qui m'a été enlevé. Pour le moment que c'est arrivé, c'était tellement, tellement douloureux, tellement terrible. Est-ce que vous comprenez, je n'ai pas le temps de prêcher ça ce matin, mais est-ce que vous comprenez comment est-ce que le manteau de Jacob, son père, était très, très limitatif? C'était le manteau de son père, c'était tellement petit, tellement limitant, avec toute la chair et toutes les choses que Jacob lui avait communiquées, que Joseph avait besoin d'être libéré de ce manteau-là pour avoir le manteau que Dieu était pour lui donner. Et si vous avez perdu des manteaux à travers des échecs de votre vie, je suis ici pour vous dire que Dieu a encore un manteau pour vous. Et que le manteau de Dieu, si vous l'acceptez, va être infiniment au-delà de tout ce que vous avez pu perdre, tout ce qui vous a été enlevé peut devenir bien petit en comparaison avec le manteau de la faveur du rêve de Dieu que Dieu va mettre sur vous. Si vous le croyez ce matin, pouvez-vous dire un dernier grand amen? Est-ce qu'on peut applaudir le rêve de Dieu ensemble? Alléluia. Penchez la tête pendant un moment. On va continuer dans les prochaines semaines. Mais ce matin, je veux faire un appel à des gens qui sont ici et qui diraient, je veux me lever ce matin pour dire par la foi, je veux faire une déclaration de foi. Toutes mes destinées vont s'accomplir en Dieu. Et j'accepte la préparation de Dieu. Et alors que je me retrouve dans un endroit où il y avait des portions de moi qui disaient, sortez-moi d'ici. Je veux partir d'ici, je veux quitter d'ici, je veux me sauver de la situation. Dieu dit non, je suis avec toi. Et si tu penses que tu as perdu un manteau, si tu penses que tu t'es retrouvé dans le puits, et tu penses que maintenant tu es oublié là, non, non, je suis en train d'œuvrer. Je suis en train de te préparer, je suis en train de mettre du fer dans ton âme. Et je t'appelle à être fidèle là où tu es. Je t'appelle à être fidèle. Une parole qui est prophétique pour certains d'entre vous qui avaient perdu un manteau récemment, qui avaient perdu une stature, avaient perdu quelque chose récemment. Et Dieu dit, ne pleure pas sur le manteau qui a été perdu, parce que mon manteau à moi est bien plus glorieux. C'est le manteau que je vais mettre sur toi après t'avoir préparé, t'avoir façonné, t'avoir formé et avoir mis de l'acier dans ton âme. Alors je voudrais appeler tous les Joseph, tous les hommes et les femmes dans ce lieu, tous les parents, bien-aimés, avant d'être un pasteur ou avant d'être un prédicateur, moi je suis un papa, je suis un époux. Nous avons tous besoin de venir devant Dieu et de dire, Seigneur, aide-moi à être fidèle dans les choses qui sont quotidiennes, des choses qui se répètent, des choses dans la patience et dans la communication et dans l'amour et dans la patience et la persévérance. Aide-moi, Seigneur, je veux être fidèle à l'endroit où tu m'as placé, dans vos ministères, dans vos services, dans vos appels, de dire, je suis un Joseph. Et j'accepte la préparation de Dieu. Je suis peut-être des gens qui sont ici, qui sont dans le chapitre 39 et 40, mais il y a un chapitre 41 qui s'en vient pour toi. Il y a un jour où Dieu, dans son temps parfait, va mettre le manteau du rêve de Dieu sur toi. Et lorsque tu penses que tu as perdu tellement, le manteau du rêve de Dieu est infiniment plus grand. Alors mon appel est très simple. Combien de personnes ici diraient ce matin, c'est moi. Je veux accepter la préparation de Dieu. Je veux annoncer, je veux dire, Seigneur, aide-moi. Je veux demander à Dieu de m'aider à être fidèle à l'endroit où il m'a placé, à ne pas abandonner, mais à continuer pour l'accomplissement de l'appel. Si c'est votre désir, j'aimerais vous demander de vous lever devant Dieu, de dire, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Pour toujours, je dirai que ton nom soit béni. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Pour toujours, je dirai, le Seigneur soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais faire un appel ce matin, pas ici à l'avant, mais chacun à nos places. Ce n'est pas quelque chose d'égaliste ou obligatoire, mais si vous êtes libre de le faire, est-ce que je pourrais vous demander tous les Joseph de lever vos mains vers Dieu comme un enfant tend ses mains vers celui qui l'aime. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je veux chanter ce chant, mais je veux surtout prier cette prière. Dans ce que tu as donné, dans ce que tu as repris, je veux te bénir ce matin. À travers l'épreuve, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que je peux entendre des centaines de voix qui se lèvent devant Dieu, qui disent, Seigneur, je veux être fidèle dans le lieu de la petite chose. Je veux être fidèle même dans le puits. Je veux être fidèle et j'accepte que quels que soient les manteaux que j'ai perdus, tu as un manteau nouveau pour moi. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Pour toujours, je dirai.
éternel soit béni. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse mettre ces paroles à l'écran. Le Seigneur a donné, le Seigneur l'a repris. Et pendant quelques instants, est-ce qu'on peut lever nos voix en prière devant Dieu? Alléluia. Seigneur, le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris.
Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni.
Seigneur,
tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni.
Béni soit le nom ensemble.
Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom.
On peut lever nos mains, nous offrir à Dieu, le louer, l'adorer.
Béni soit le nom.
Abandonnez-vous à lui, faites-lui confiance.
Oh, oh, oh. Béni soit ton glorieux nom. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit ton nom.
Donné ensemble.
Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris.
Malgré tout.
Malgré tout, je dirai que ton nom soit.
Allez, allez, abandonnez-vous à Dieu. Seigneur,
Seigneur, tu as donné. Je dirai que ton nom soit béni.
Béni soit le nom ensemble.
Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom.
Allez, levez vos voix. Abandonnez-vous à Dieu. Faites-lui confiance.
Béni soit le nom.
Faut percer ce matin.
Faut
percer ce matin et lui dire.
Béni soit ton glorieux.
Béni soit ton nom.
Le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.